Bonjour tout le monde et grand merci de m'avoir invité à apporter la parole ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais pas, je m'appelle Rick Conrad. Donc je suis on va à l'église libre d'Aix-en-Provence. Je fais des études de théologie et je suis venu pour faire un ministère auprès des étudiants à Aix-en-Provence. Et pour ce matin, on va traiter un texte qui parle de l'Église de Jérusalem, dans les premiers chapitres des Actes. Donc le tout début de l'Église, ça va être dans les chapitres 2 à 5, on va voir deux passages distincts. Mais ça commence plutôt, ou en guise d'introduction, dans le livre de l'Exode. À la toute fin du livre de l'Exode, on a le récit de l'action de Moïse d'ériger le tabernacle. Donc on a eu des chapitres de description de tous les articles, toutes les pièces qui sont fabriquées et le jour où tout est assemblé et mis en place, on lit que alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et 500 ans plus tard, on a le temple bâti par Salomon. On n'a plus besoin d'une maison mobile pour Dieu. On est installé à Jérusalem, donc on construit le temple, et la même chose se passe. La gloire de Dieu, en forme de nuée, remplit le temple. Dieu habite sa maison. Puis, 1000 ans après ça, on voit Jésus qui est dans le temple, en fait en train de chasser les marchands et les changeurs de monnaie. Ce qui provoque certaines questions auprès des autorités religieuses. Donc ils me posent la question, quelle est ton autorité pour faire ça et quel signe peux-tu montrer pour justifier cette action? La réponse de Jésus, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Bon, ils sont tous étonnés, on ne bâtit pas un temple comme ça en 3 jours, mais en fait, ils n'ont pas bien compris Jésus qui ne parlait pas du bâtiment, mais de son propre corps. Le corps de Jésus est le temple parce que c'est dans ces jours, c'est là où se trouve la présence de Dieu. Ce n'est pas dans le bâtiment, c'est en Jésus qui est la parole de Dieu faite chair, qui est Immanuel, Dieu parmi nous. Et effectivement, ils ont détruit ce temple et il a relevé en 3 jours. Mais puis il est parti au ciel. Alors, si Jésus est parti, où est l'habitation de Dieu sur terre maintenant, s'il y en a? Bon, comme le Saint-Esprit est descendu remplir le tabernacle et le temple, et comme il est descendu lors du baptême de Jésus pour le remplir, nous avons dans le deuxième chapitre d'Actes, des Actes, le récit du descente du Saint-Esprit pour remplir les chrétiens, pour remplir les croyants, pour habiter maintenant son Église. La maison de Dieu, désormais, ce n'est plus le lieu où nous allons, c'est ce que nous sommes. Et c'est inouï, c'est inédit, c'est incroyable. Dieu, c'est pas là-bas, mais il est ici. Et ça change grand-chose. Et on peut poser la question, qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit habite son peuple, à quoi ça va se ressembler? Et donc, Luc nous le raconte à la fin du chapitre 2 du livre des Actes et encore à la fin du chapitre 4 et un peu de chapitre 5. Donc, on va lire tout ça. Et pendant la lecture, je vous encourage à être attentif à ce qui est répété. Il y a plein de choses répétées plusieurs fois dans ces textes. Et petite astuce d'étude biblique, ce qui est répété, c'est important. Donc, quels sont les mots ou les thèmes qui reviennent dans cette description de l'Église naissante, le peuple de Dieu rempli du Saint-Esprit? Et donc, je suis en chapitre 2 à partir du verset 41. Ça suit, on avait le Saint-Esprit qui est descendu, parlait en langue, la grande foule rassemblée parce que c'était la fête de Pentecôte, et Pierre qui a donné cette prédication pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, et Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Puis en chapitre 3, on a le récit de la guérison d'un paralytique par Pierre et Jean qui provoque des soucis avec les autorités juives qui leur interdisent de continuer de prêcher au nom de Jésus. Donc face à cette persécution, on a la prière merveilleuse de l'Église de Jérusalem en acte 4. Le Saint-Esprit les remplit de nouveau et le lieu où ils étaient tremble. Et puis on reprend dans le verset 32 du chapitre 4. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de dispenser du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entre sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adresse la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que tu avais vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tout ce qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des bancaires, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Merci, Paulo. plein de choses intéressantes dans ce portrait de l'Église de Jérusalem, qui est la même que l'Église à laquelle nous appartenons, la seule Église de Jésus-Christ. Donc ici dans ce texte, nous voyons le tout début, les premiers jours de cette époque où l'Esprit habite son peuple. Donc, d'une part, leur expérience ici décrite est la même que notre expérience. Nous sommes toujours l'Église, l'Esprit habite toujours son peuple, ça n'a pas changé. Mais il faut reconnaître, d'autre part, qu'il y a des particularités puisque c'est le tout début. Donc, il y a cette différence entre ce qu'on appelle normatif, c'est-à-dire ce qui est la norme pour l'Église en tout lieu, en tout temps, et ce qui est simplement descriptif. C'est de l'histoire, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, ça peut avoir une ère technique, ce qui est normatif ou descriptif, mais en général, c'est évident. Par exemple, on a lu qu'il y a la générosité de l'Église, ça c'est normatif. Alors que la mort d'Ananias et Saphira, c'est plutôt descriptif. Voilà. Donc avec cette distinction en tête, revenons au texte et à notre question. Qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit habite son Église? Et je propose que ce que nous voyons, c'est la puissance, la peur et la communion. Donc la venue de l'Esprit, sa présence dans son peuple est accompagnée de grandes manifestations de puissance, des manifestations visibles et dramatiques de la puissance de Dieu. Donc on avait le bruit de vent, les flammes de feu, on avait le parler en langue où les gens parlaient les langues qu'ils ne connaissaient pas avant, qui sont reconnues par d'autres personnes. On a aussi ces prodiges et signes miraculeux dont on parle. Donc en 2:43, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par l'intermédiaire des apôtres. Et encore 5:12, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Puis en verset 16, c'est question de guérison. Tous les malades, tous les démoniaques des villes voisines, ils sont guéris. Donc, un exemple des signes et prodiges. Et ces deux mots, signes et prodiges, ils vont ensemble, presque systématiquement, dans le Nouveau Testament. Et bien sûr, quand on parle de ça, on parle du surnaturel. On parle des choses qui dépassent le fonctionnement naturel de ce monde. Mais ce n'est pas simplement un événement surnaturel aléatoire, juste quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est un signe. Ça veut dire que ça indique, ça pointe vers quelque chose. Il y a un message. Un signe, c'est une communication de la part de Dieu. Et ici, surtout, le message, c'est « me voici ». Voici dans ce groupe de personnes que je suis présent, je suis à l'œuvre, je fais quelque chose de nouveau. En fait, c'est la continuation du ministère de Jésus. Jésus, dans sa chair, est parti, mais par son esprit, il est toujours présent, il est toujours à l'œuvre. Les apôtres continuent à faire les mêmes choses que Jésus faisait pendant son vivant, ce qui veut dire que Jésus est toujours présent et continue à exercer sa puissance. C'est la continuation de ces signes du royaume que Jésus apporte. Et donc, ces signes ont cette fonction prophétique pour annoncer ce qui sera la réalité quand le royaume sera pleinement réalisé. Si on guérit les malades, ça veut dire qu'il n'y a plus de maladies dans le royaume. Si on ressuscite les morts, parce qu'il n'y a plus de morts dans le royaume, plus de démons si on fait des exorcismes. Vous avez remarqué que les signes et prodiges sont étroitement liés aux apôtres, par l'intermédiaire des apôtres. Et en fait, on voit que dans cette description de l'Église de Jérusalem, c'est vraiment les apôtres qui animent la vie de l'Église. Ils sont partout, ils font tout. C'est eux qui enseignent, c'est eux qui rendent témoignage à la résurrection de Jésus, c'est eux qui opèrent des prodiges, qui acceptent les dons des membres de l'Église. Et ils ont une très grande importance à ce stade parce que c'est eux qui ont cette tâche particulière de poser le fondement de l'Église. Ils sont en train de le faire. Bon, aujourd'hui, les apôtres ne sont plus vivants. Ils sont morts depuis longtemps. Mais l'Église est toujours apostolique. Et ça parce que nous tenons toujours à l'enseignement des apôtres, comme le faisaient les chrétiens à cette époque-là. C'est ce que j'expose maintenant. Et parce que si nous sommes ici, c'est parce que leur témoignage est parvenu jusqu'à nous. Leur témoignage à la résurrection de Jésus. Et le fait que nous sommes là, ça relève à une autre manifestation de la puissance de l'Esprit dans ces textes que je n'ai pas encore mentionné. Mais Luc en parle trois fois dans ces textes. De 41, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et 5,14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et ça continue, tout le livre des Actes. Le Seigneur ajoute, le nombre augmente, la parole se répand. Christ bâtit son Église et il est inarrêtable. Par sa puissance, tant de vies sauvées, tant de prisonniers arrachés au pouvoir du diable, tant de transformations miraculeuses. C'est lui qui le fait, par sa puissance, à travers nous, parce que quand l'Esprit habite l'Église, il y a puissance. La deuxième conséquence de la présence du Saint-Esprit, qui habite son nouveau temple, l'Église, on a peur. De 43, la crainte s'emparait de chacun. Et en 5,5, après la mort d'Ananias, une grande crainte. Encore en verset 11, après que le jugement tombe sur Saphira aussi, une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Je note en passant que ce verset, c'est la première fois que Luc utilise le mot « Église » dans le livre des Actes, qui veut dire simplement « assemblée ». Et puis, en 5,13, personne d'autre n'osait se joindre à eux. Les autres ont peur de l'Église. Dans l'Église, on a peur. Les gens de l'extérieur, ils ont peur. Mais pourquoi? Bon, on comprend que quand Dieu exécute son jugement sur les hypocrites au milieu de l'Assemblée, comme ça, c'est un peu terrifiant. Mais déjà, au chapitre 2, on avait cette crainte qui s'emparait de chacun. Au milieu de prodiges et de guérisons, des foules qui se curent pour se faire baptiser, qui sont remplies du Saint-Esprit, et on a peur. Pourquoi? Voici ce que je propose. J'ai pensé au prophète Ésaïe, qui dans une vision est transporté au ciel, dans la présence de Dieu, au milieu des anges qui ne cessent pas de chanter « Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai »« Saint, Saint, Saint et l'Éternel ». Et la réaction d'Ésaïe, il a peur. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, que je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Et c'est quelque chose que nous voyons tout au long de la Bible. Quand les gens entrent dans la présence de Dieu, ils ont peur. Pensez aux disciples, quand Jésus calme la tempête, cette manifestation de sa divinité, et les disciples, une fois hors de danger, ils ont peur. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'entrer dans la présence de Dieu et même d'expérimenter cette crainte, parce que la crainte de l'Éternel est pure. Psaume 19, 10. En psaume 2, les nations sont exhortées de servir l'Éternel avec crainte et de se réjouir en tremblant. On a peur et on se réjouit. De même, dans l'église naissante à Jérusalem, c'est joyeux, de 46. Chaque jour, on est rempli de bonheur d'avoir cette vie spirituelle partagée, cette communauté. On prie, on chante, on mange ensemble et on a peur parce qu'on est conscient que Dieu est parmi nous. Notre joie, ce n'est pas frivole, ce n'est pas fun. C'est une joie sérieuse et puissante. On a le bonheur de se sentir tout petit devant sa grandeur, faible devant sa puissance, indigne devant sa grâce et aimé par le Dieu qui tient les étoiles dans sa main. Bon, j'ai dit nous, mais je pose la question à moi-même, est-ce que nous vivons la crainte de Dieu quand nous nous rassemblons? Et sinon, sommes-nous véritablement conscients de ce que ça veut dire que Dieu est présent parmi nous, que le Saint-Esprit habite en nous? Quelque chose qui m'a fait réfléchir. Bon, puissance, Père et communion. Quand le peuple de Dieu devient temple du Saint-Esprit, il y a cette unité des croyants dans la communion. 2:42, la communion fraternelle. Verset 44, tous étaient ensemble et avaient tout en commun. Verset 46, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Verset 4:32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils avaient tout en commun encore. Et 5:12, ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon au temple. Auparavant, en Israël, le peuple de Dieu, on avait une unité familiale, ethnique. On est tous descendants d'Abraham, c'est ça qui fait notre unité. Mais qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église? Unité des gens qui viennent de partout, toute origine, toute rang dans la société. Leur unité, c'est quoi? C'est l'Esprit qui habite dans les croyants. Et pas dans chacun séparément, mais nous formons un temple et il habite son temple. Donc, nous avons cette communion et dans ces textes, nous voyons que cette communion est fondée sur une foi commune et un salut commun, symbolisée par la Sainte Cène, manifestée par la générosité et maintenue par la persévérance. Donc, 5:32, c'est la foule de ceux qui avaient cru qui n'ont qu'un cœur et qu'une âme. Plusieurs fois, nous avons vu que les membres de cette communauté sont appelés les croyants. Ils ont une foi commune en Jésus. Et ils sont aussi ceux qui ont été sauvés, parce que notre foi en Jésus, c'est en Jésus en tant que sauveur. Ça veut dire que, d'une part, il y a exclusivité. La communauté est définie par cette foi en Jésus comme Christ le sauveur. Et ceux qui ne partagent pas cette foi n'accèdent pas à cette communion. Mais d'autre part, il y a cette ouverture, parce que quiconque croit fait partie de la communauté. Ce n'est pas nécessaire d'avoir Abraham pour ancêtre, ni d'avoir telle qualification, tel don, tel statut dans la société. Les croyants, c'est simplement ceux qui confessent leur insuffisance et qui mettent toute leur espérance en Jésus. Jésus qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et donc, cette communion des croyants est symbolisée, vécue solennellement par l'acte que Jésus nous a commandé de faire en sa mémoire, la Sainte Cène. C'est mentionné deux fois en acte 2 quand on parle de la fraction du pain. Et c'est ainsi que la foi invisible que nous avons en Jésus tous ensemble, nous l'exprimons visiblement, tangiblement en partageant ce repas. Le même pain et le même vin sont partagés, distribués en nous tous, parce que c'est l'unique sacrifice de l'unique Christ qui nous a sauvés, tous. Puis cette communion est manifestée par la générosité. C'est une communion de solidarité. Et vous avez remarqué bien sûr que le texte met un fort emphase sur cet aspect de la vie de l'Église. Deux fois, on lit qu'ils avaient tout en commun. Deux fois de plus, on lit qu'ils avaient cette pratique de où ceux qui avaient des biens, notamment immobiliers, les vendaient pour pourvoir aux besoins des autres. Et puis, on a ce double récit où Barnabas le fait de bonne foi, alors que l'hypocrisie d'Ananias et Saphira est démasquée et jugée. Bon, attention, il ne faut pas imaginer plus que nous le dit le texte. Ils n'ont pas aboli la propriété privée. Chacun dans l'Église gardait le contrôle de ses biens. On voit ça notamment en ce que Pierre dit à Ananias. Le champ était toi, Ananias. Tu n'avais pas l'obligation de le vendre. Et même après l'avoir vendu, l'argent était à toi. Tu aurais pu donner une partie en disant, voici une partie. Donc le jugement, ce n'est pas qu'ils ont gardé une partie du prix. C'était l'hypocrisie. C'était le désir de se faire ressembler à des super chrétiennes. Et donc, ils aimaient la gloire, ils voulaient la gloire devant les autres et ils aimaient l'argent. Donc, ce que nous avons ici, ce n'est pas une espèce de communisme idéaliste. C'est beaucoup plus pratique que ça et beaucoup plus réel. En fait, ils se rassemblent, ils ont cette communion, ils vivent ensemble et ils découvrent qu'il y en a parmi eux qui ont de gros besoins. Et ce n'est pas par obligation, ce n'est pas parce qu'il y a un pourcentage, cet amour fraternel qui voit son frère, sa sœur, dans le besoin, qui a de quoi l'aider et qui ne peut pas ne pas aider. Ils aimaient les uns les autres en parole et en acte. Ici, ce sont des croyants qui se connaissent plus tôt ou qui sont dans la même ville au moins. Plus tard, on va voir que les chrétiens grecs vont voir que les frères en Judée sont vraiment dans la misère à cause d'une famine et ils vont faire une grande collecte pour les aider. Donc, envoyer leur argent aux frères au loin. Il y a la générosité locale, mais aussi au loin. Il n'y a pas de contrainte. Paul insiste qu'il n'y a aucune contrainte. Au contraire, quand l'Esprit habite son Église, il y a cette glorieuse liberté de ne plus être maîtrisé par l'amour de l'argent et de ne plus être le prisonnier de ses biens. Il n'y a pas de place pour deux dieux dans le temple du Saint-Esprit, un seul. Quand lui vient occuper la place, l'amour de l'argent est chassé. Et ça se voit dans la pratique de ces gens, nos aînés dans la foi. Et finalement, cette communion est maintenue par la persévérance. On a remarqué que Luc mentionne deux fois la persévérance dans les six versets en chapitre 2. Chaque jour, avec persévérance, il se retrouvait dans le temple. Et le fameux verset 42, il persévérait dans l'enseignement, la communion, la scène et la prière. Cette persévérance, c'est à la fois ce à quoi nous sommes appelés et ce que donne l'Esprit. Parce que le tabernacle dont on parlait, ce vieux temple, le bâtiment, ils étaient temporaires. Dieu les a quittés un jour. Mais le temple de l'Église, c'est la réalité dont les autres demeures étaient des ombres. Et ce demeure, il ne quitte jamais. Il est toujours présent. Il exerce toujours sa puissance au milieu de son peuple. Il ne se lasse pas et donc nous persévérons dans la communion, dans l'enseignement, dans la prière, dans le témoignage. Ce bâtiment passera, cette ville passera, la France passera, oui. Tout le système de ce monde passera, mais ce que nous avons ici, ces relations d'amour fraternel, cette communion du Saint-Esprit, ça c'est éternel. Donc en guise de conclusion, ici, dans ces premiers chapitres des Actes, on a le tout début de l'Église. C'est là où l'Église que nous sommes aujourd'hui a commencé. Et donc l'histoire qui commence là continue avec nous. C'est notre tour d'être l'habitation de Dieu sur terre, notre tour d'expérimenter cette présence du Saint-Esprit, cette puissance, cette crainte et cette communion. Et ça, je dis simplement, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Prions. Merci Seigneur. Merci pour qui tu es et pour qui tu es pour nous. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas abandonnés quand nous t'avons rejeté. Tu es venu pour nous. Tu nous as sauvés. Et tu as ce projet d'accomplir cette réconciliation parfaite et totale où nous serons pleinement en ta présence à tout jamais. Et merci parce que nous en goûtons dès aujourd'hui, parce que tu es parmi nous, parce que tu habites en nous. Donne-nous à être conscients de cette réalité, de vraiment vivre cette vie d'Église, cette communauté de croyants, cet temple de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.